France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, le déluge, la soudaine et mortelle montée des eaux, a inondé plusieurs traditions mythiques. On trouve le déluge avec la noyade de quasiment toute l'humanité, sauf quelques survivants, heureusement. Sinon, nous ne serions pas là. Dans plusieurs mythologies, dans des poèmes très anciens du Moyen-Orient, en Mésopotamie, dès les années 1700 avant Jésus-Christ, puis dans la Bible, qui a repris ce grand mythe babylonien, et aussi de manière indépendante en Grèce. En Grèce aussi, il y a eu un débordement universel des eaux, voulu par les dieux. Deux êtres humains, deux seulement, ont été épargnés. Un couple, une femme et un homme. Ces deux-là ont refait l'humanité. Ils s'appelaient Deucalion et Pyrrha. À Babylone, dans la Bible, en Grèce, c'est presque toujours la même histoire.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Il y a un déluge total, une montée universelle des eaux partout sur Terre, quand les dieux, ou Dieu s'il est tout seul, décident que l'humanité telle qu'elle existe ne convient pas, qu'il faut la changer pour une autre, plus sympathique, plus obéissante et surtout plus humaine, c'est-à-dire plus conforme à notre humanité d'aujourd'hui, qui est faible, éphémère, travailleuse et mortelle. Le déluge, dans ces mythologies, est le moment essentiel de rupture, où l'on quitte une condition humaine ancienne, condition trop facile et aussi trop pleine de fausses grandeurs et d'illusions. Un moment où on quitte le passé fabuleux, plein de merveilleux, de surnaturel, pour entrer dans l'histoire, celle qui n'est pas encore finie. Le déluge introduit un changement irréversible.
Oui, le temps est venu.
De faire quoi ?
Mes larmes inonderont le monde. Je pleurerai pendant 40 jours et 40 nuits. Je noierai la terre et rien ni personne ne survivra.
L'histoire a été reprise presque telle qu'elle par les Hébreux, qui ont vécu un long exil à Babylone. Cette fois, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'est pas content de l'humanité, d'après Caïn. Il y a trop d'hommes qui se prennent pour des fils des dieux, comme ils disent, qui sont arrogants.
Seigneur, je ne comprends pas. Lorsque tu nous as créés, tu nous as laissé le choix de pécher ou non. Est-ce que c'était une si grave erreur ?
Je l'ai fait parce que j'espérais que les hommes sauraient faire la différence entre le bien et le mal et sauraient choisir en toute sagesse. Je pensais que naîtrait d'une nation de prophètes.
Aie pitié de nous, Seigneur. Donne une autre chance à l'humanité.
Je veux mettre un terme à tout ça. Et créer un monde nouveau.
D'où le déluge, puis après la décrue, un pacte passé avec Noé, l'homme que Dieu a choisi pour faire revivre l'humanité. Dieu s'engage à ne plus intervenir dans la nature, et l'homme doit s'engager à suivre des règles strictes dans sa nourriture, dans son rapport à autrui, en bannissant les crimes de sang. Une alliance est créée entre Dieu et les hommes. Cette alliance est en fait une séparation. Dieu n'interviendra plus dans le cours naturel des choses. Il le laissera faire. Il laissera la nature en paix. Il renonce à la modifier à sa guise. Il s'intéressera uniquement aux actions des humains. À leur histoire, c'est déjà énorme. En Grèce, on va retrouver la même histoire, avec un Zeus pas content, une marée gigantesque qui noie le monde, un coffre pour sauver deux individus, Deucalion et Pyrrha, avec peut-être des animaux, puis un échouage et une recréation de l'humanité par le couple des survivants. L'échouage a lieu selon les traditions soit sur le sommet de l'Etna, le point culminant de la Sicile, soit sur le Parnasse près de Delphes et d'Apollon, soit sur une montagne du nord de la Grèce. Mais la Grèce ne va pas donner une place centrale à ce mythe, contrairement aux poètes babyloniens et à la Bible. L'histoire du déluge est bien connue des Grecs, mais pendant longtemps, on n'en a pas de traces directes. Homère et Hésiode n'en font rien. alors que visiblement, ils la connaissent. Les poètes anciens adoptent, comme les écrivains de Babylone et de la Bible, cette idée qu'une rupture violente a changé l'humanité, a produit l'humanité qui est la nôtre, humanité faible, précaire, mortelle et besogneuse si elle veut survivre. Il a fallu une grande catastrophe pour que les hommes et les femmes cessent d'être proches des dieux, de coucher avec eux, pour produire des demi-dieux comme Héraclès, Achille, Hélène, Bellérophon, Sarpédon, Énée. Cette race des demi-dieux a disparu pour toujours. Comme à Babylone et dans la Bible, cette catastrophe est irréversible. Le monde ne reviendra jamais en arrière. Mais le cataclysme qui a produit cette disparition définitive du monde des demi-dieux n'est justement pas un cataclysme au sens propre, puisque ce mot grec, kataklysmos, veut dire déluge, débordement dévastateur. Comme événement de rupture, comme désastre, Homère a opté pour une autre option, celle de la guerre totale, la guerre de Troie. Ça devait lui paraître plus intéressant qu'un déluge qui anéantit toute vie humaine, animale, végétale en quelques jours. Pourquoi ce choix? D'abord, il y avait moins d'eau disponible en Grèce qu'en Mésopotamie, où les crues régulières des deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, faisaient de l'eau un danger permanent en même temps qu'une ressource. Il fallait endiguer cette eau, drainer, assécher tout le temps. C'est bien pour ça que les dieux ont fabriqué les hommes avec de l'argile et un peu d'esprit divin, pour qu'ils accomplissent ces tâches pénibles. La Grèce est un pays plutôt sec. Des pluies torrentielles peuvent s'y déchaîner, mais ça ne permet pas vraiment d'imaginer un engloutissement universel. Il y a peut-être une autre raison. Les grands et magnifiques poèmes babyloniens qui racontent cette histoire de déluge sont liés au pouvoir politique et religieux du pays. Ils justifient des cultes, des fondations, des élargissements de villes, des dynasties. C'est la même chose pour la Bible. Le livre de la Genèse, qui contient l'histoire du déluge, a été écrit au retour de l'exil de Babylone pour refonder la religion et la société. En Grèce, ce n'était pas le cas. Les poètes participaient à des rituels, ils chantaient lors de cérémonies religieuses, mais ils se considéraient comme indépendants, libres par rapport aux prêtres et aux rois. Ils étaient une profession à part. C'est pour cela qu'ils ont inventé ce qui est unique dans les mythologies de la région, des divinités qui leur étaient exclusivement consacrées, les neuf muses. Ces déesses sont les garantes de la valeur, de la vérité des poésies que chantent les poètes. En vérité, ce sont les muses qui chantent à travers la bouche des poètes les histoires des dieux, des héros, la formation du monde. Raconter une catastrophe comme le déluge qui emporte d'un seul coup toute l'humanité sans tenir compte des différences entre les villes, les populations, les individus, c'est adopter le point de vue global, général, d'une divinité souveraine. Ce point de vue devait plaire aux prêtres, représentants des dieux, et aux monarques qui disposaient de leur peuple. En Grèce, c'était différent. Il n'y avait pas ce genre de pouvoir religieux et politique. Les cités, les peuples, les conditions étaient très variées. Et tout le problème pour les poètes était de montrer en quoi ces gens différents, qui étaient leur public, appartenaient malgré tout au même monde. Une bonne guerre, les Grecs contre des étrangers, les Troyens, pouvaient faire l'affaire. Les individus, les gens les plus divers, pouvaient se reconnaître dans les actions des héros, dans leur succès, dans leur malheur.
Ah, cette guerre, combien elle fut néfaste. Regarde, les armes d'Agamemnon, mon frère, perfidement tué au seuil de sa maison à son retour de Troie. Il n'a pas reçu la mort en combattant un ennemi digne de lui, non. Il n'a pas été englouti par la mer, comme bien des nôtres, non. Mais assassiné traîtreusement, et moi, je n'ai plus de joie à régner sur ma terre. Voilà le prix que j'ai payé pour cette guerre que nous, Atrides, nous avons voulu.
France Inter, Pierre Judet de Lacombe. Thank you.
should find.
Rôdait sur la terre.
Pierre Judet de la Combe nous parle du déluge selon la mythologie grecque.
S'il n'a pas eu la même fonction qu'à Babylone, ou plus tard dans la Bible, le mythe du déluge était bien connu en Grèce. On a des traces de cette histoire d'une destruction globale de l'humanité par les eaux. Ces traces sont d'abord discrètes. D'après quelques traditions grecques éparses, l'humanité telle que nous la connaissons, la nôtre, serait apparu après un déluge grâce à deux survivants, un homme et une femme, Deucalion et Pyrrha. Pyrrha, c'est la rouge ou la rousse. Elle passe pour être la fille de la première femme, celle qui a été fabriquée par les dieux, Pandore. Pandore n'est pas tout à fait une vraie femme, car elle est un mannequin que les divinités artisanes de l'Olympe, Athéna et Héphaïstos, ont fabriqué avec de la terre. Cette femme, la première, était un châtiment. Elle a été fabriquée pour punir les hommes. Zeus, le dieu suprême, n'était pas du tout content que le dieu Prométhée, le dieu ami des hommes, ait voulu le tromper, lui, Zeus, lors d'un repas qui allait devenir l'ancêtre du sacrifice. Prométhée avait donné les plus belles parts de viande aux humains et non aux dieux. Zeus s'est fâché et a cessé de donner du feu aux hommes. Prométhée, le dieu effronté, est allé voler le dieu du ciel pour le donner aux humains et leur permettre de survivre. Zeus avait en effet décidé, pour une raison qui nous échappe, de supprimer l'humanité. Avec le feu de Prométhée, les hommes ont échappé à ce désastre. Ils pouvaient se chauffer, se loger, développer les techniques les plus diverses et donc se construire une existence vivable. Zeus a alors décidé de leur rendre l'existence plus difficile en leur envoyant un fléau, la femme, sous la forme bizarre de Pandore, qui était une créature étonnante, un automate doté de tous les charmes. Zeus en fait un cadeau aux hommes pour qu'ils perdent la tête et s'épuisent à travailler pour elle. Ça a marché.
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
L'histoire de Pandora, c'est l'histoire d'Ève, d'une certaine façon aussi. Mais la grande différence, c'est que dans cette histoire grec, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché. On raconte ça, les hommes sont là, hein, ils regardent, ça se passe entre Prométhée et Zeus, ça se déroule, et ils ne bronchent pas. Et Pandora, elle a l'apparence d'une déesse, elle est quelque chose de divin, et elle est en même temps bestiale, mais dans le malheur de l'homme, elle n'y est pour rien. Elle obéit exactement aux ordres de Zeus.
Mais cette femme était en fait comme le feu, la condition de la survie de l'homme. Avec la femme, il pouvait se reproduire et assurer ainsi une forme d'éternité à l'humanité, de génération en génération. Mais ça va se gâter. Pandore est épousée par le frère de Prométhée, un dieu beaucoup moins intelligent que lui, un dieu qui ne prévoit rien et se laisse prendre par ses pulsions, le dieu Épiméthée. Alors que son frère Prométhée est le prévoyant, celui qui sait à l'avance, Épiméthée est l'imbécile. Et celui qui sait après coup, trop tard. Prométhée lui avait bien dit de ne pas épouser Pandore, mais son frère, envahi par le désir, ne résiste pas. Et voilà pourquoi nous, longtemps après, nous existons. Des noces d'Épiméthée et de Pandore naît Pyrrha, la rousse, la première femme mortelle humaine. Ne me demandez pas pourquoi un dieu, Épiméthée, et un mannequin engendrent un être humain bien vivant de chair et d'os, immortel. C'est comme ça. Prométhée, de son côté, se marie avec une déesse, dont le nom est souvent Hésionée, une fille du dieu Océan. Ils ont un fils, Deucalion, un homme mortel. Ne me demandez pas non plus pourquoi, ce n'est pas un dieu. On pourrait croire qu'avec le feu donné par Prométhée, avec la femme donnée par Zeus sous la forme de Pandore, l'humanité allait pouvoir vivre sa vie et se reproduire. C'est le poète Hésiode qui raconte le vol du feu par Prométhée, la fabrication de Pandore, puis son mariage avec le frère de Prométhée. Ça suffit. L'histoire de l'humanité est lancée une fois pour toutes. Prométhée a donné les bases de la vie humaine. Il a inventé le sacrifice, il a donné le feu aux humains, et pour compléter le tableau, Zeus a inventé la femme. Toutes les conditions de la vie des mortels, de leur rapport aux dieux, sont mises en place. La religion, la technique, la procréation. Mais pour d'autres Grecs, pour d'autres poètes, ça ne suffisait pas. C'était trop abstrait, trop intello. Il fallait une histoire qui raconte comment, matériellement, les hommes que nous sommes ont été fabriqués. Il fallait expliquer comment est sortie du néant l'immense multitude que constitue l'humanité. Un bon gros déluge était l'occasion de montrer comment a été fabriquée cette nouvelle humanité. Une des premières mentions du déluge et de l'histoire de ces jeunes gens, Deucalion et Pyrrha, apparaît dans une comédie, une pièce écrite par un poète de Sicile. Son nom était Épicarme. Il a vécu au 6e et 5e siècle avant notre ère. Sa comédie s'appelle Pyrrha. Nous n'en avons que quelques fragments éparpillés sur un papyrus émietté. D'après ce que nous pouvons lire, le dieu Prométhée, l'ingénieux, le technicien, conseille à Pyrrha et à son époux Deucalion de s'enfermer dans un coffre luxueux chamarré pour échapper au déluge que Zeus prépare. Ce coffre sera construit en bois de frêne et devra être couvert par un toit. Deucalion, plutôt glouton, on est dans une comédie, semble vouloir y mettre au moins un mois de nourriture avec des animaux. Dans cette pièce, le déluge serait une réponse de Zeus au vol du feu par Prométhée. Le poète Pindare nous en dit un peu plus. Nous sommes encore au 5e siècle avant notre ère. Pindare s'intéressait au sport et composait des éloges pour les vainqueurs des grandes compétitions sportives comme les Jeux Olympiques. Dans un poème, Pindare célèbre un lutteur, vainqueur à Olympie. Il commence par le comparer à Héraclès, qui était grand, victorieux, parce qu'il avait les dieux avec lui. Les dieux, c'est-à-dire son père Zeus. La preuve de cette aide divine, c'est qu'Héraclès a pu un jour aller se battre victorieusement contre d'autres dieux, et pas des moindres, Poséidon, Apollon, Hadès, le dieu des enfers.
Valeureux et savant, les hommes le sont devenus par le divin. Car contre le trident, comment Héraclès aurait-il dans ses mains agité sa massue le jour où, debout près de Pylos, Poséidon le pressait, et le pressait aussi, de son arc d'argent, en guerrier, Apollon. Ce même jour où Hadès ne tenait pas immobile la baguette qui fait descendre les corps des mortels vers la rue creuse des mourants.
Héraclès, le mortel béni par Zeus, est le vainqueur par excellence. Il a triomphé de ses dieux immortels, a même triomphé du dieu de la mort, Hadès. Puis tout d'un coup, Pindare arrête son chant, il se ravise. Il veut arrêter ce chant héroïque où les dieux s'abaissent à faire la guerre comme des humains. C'est indigne d'eux.
Mais loin de moi ce langage. Ma bouche, rejette-le. Car injurier les dieux, c'est un art haïssable. Faire le fier sans raison, c'est de la musique de fou. Pas de ce crin-crin ici.
Pindare renonce à poursuivre ce chant héroïque que n'aurait pas dédaigné Homère, poète de la guerre. Pindare préfère commencer un autre chant, chanter la ville natale de son lutteur, c'est-à-dire en fait la ville où après le déluge se sont établis Deucalion et Pyrrha, la ville où ils ont eu une progéniture. Deucalion et Pyrrha sont les vrais héros. Les êtres humains qui comptent, ce ne sont pas ceux qui se sont battus contre les dieux, mais ceux qui ont survécu au déluge et qui ont fait exister l'humanité, la nôtre. Comment ont-ils fait? C'est étonnant.
Porte ta langue vers la ville de la première née, Protogenéia, là où, sur ordre de Zeus, virtuose en vacarme, Pyrrha et Deucalion, descendants du Parnasse, établirent leur première demeure et, sans coucher ensemble, fondèrent un même peuple, une progéniture de pierre, qui porte le nom de peuple pierreux. réveille pour eux le chemin aigu des mots, célèbre le vin antique et les fleurs des hymnes nouveaux. On a dit que la Terre Noire a été submergée par la force de l'eau, mais que grâce au savoir-faire de Zeus, le reflux emporta d'un coup le débordement. Il venait de ces deux-là, vos ancêtres aux boucliers de bronze.
Pindare ne dit pas tout. Il suppose que son public connaissait bien l'histoire. Ses auditeurs ont déjà bu souvent cette légende ancienne de Deucalion et Pyrrha, comme on boit un vin vieux. Pindare se propose de la rendre actuelle, nouvelle, en la mentionnant dans son chant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une progéniture de pierre? Qu'est-ce que c'est, ce peuple pierreux? Pindare joue sur les mots. En grec, peuple se dit laos, qui a donné notre laïque. Pour dire une pierre, un caillou, on peut employer le mot laas. Un peuple, donc, peut être constitué de pierres, de cailloux, à condition qu'il y ait une transformation adéquate. La vie peut naître des pierres.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe nous dit comment nous sommes nés à partir de cailloux.
Très longtemps après Pindare, le poète latin Ovide, un contemporain de l'empereur Auguste, a repris en détail toute cette histoire dans son poème « Les Métamorphoses ». Ce qui l'intéresse, c'est comment des pierres peuvent se transformer en humains. On est au début du poème et de l'histoire du monde humain. Jupiter, à savoir Zeus pour les Grecs, est déçu par l'humanité. Il veut en produire une autre. Il noie la terre sous un déluge. À l'exception de ce couple de Deucalion et Pyrrha, tout meurt. Puis l'eau commence à baisser. La mer est restreinte, limitée par des rives. Le jeune couple est sauvé. Mais il est seul. Le monde est vide, sans vie. C'est désespérant.
Maintenant, la mer a un rivage. Le lit des rivières est plein. Les fleuves descendent, on voit pointer les collines, surgir la terre, croître les lieux, décroître les eaux. Et après un long jour, les forêts montrent leurs cimes nues. Elles portent sur le front un peu encore de limon. Le monde est revenu. Quand il le voit vide, quand il voit les terres désolées faire un profond silence, Deucalion, avec des larmes, dit à Pyrrha :
Ô ma sœur, ô ma femme, ô unique survivante, toi à qui une même famille, l'origine de nos pères, puis le mariage m'ont uni, maintenant les dangers nous unissent. Des terres que voient le couchant et le levant, nous restons le seul peuple. La mer possède le reste. Nous ne pouvons pas encore nous fier à la vie avec certitude.
Deucalion et Pyrrha voient au loin un temple blanchi, couvert de mousse. Le feu des autels y est éteint. C'est le temple de la déesse Thémis. La déesse de la justice, de l'ordre des choses. Elle prédit l'avenir. Les deux jeunes gens s'approchent, effrayés. Ils se couchent sur les marches froides du temple et supplient la déesse.
Offre ton aide, très douce, aux choses immergées.
Thémis, la déesse, leur répond. Sa réponse est énigmatique.
La déesse est émue et rend cet oracle.
Éloignez-vous du temple, couvrez-vous la tête, détachez vos ceintures et derrière votre dos, jetez les ossements de la grande vieille mère.
Il reste longtemps saisi.
Deucalion et Pyrrha ne comprennent pas ce que la déesse leur demande de faire. Jeter les ossements d'une vieille femme, d'une vieille mère, ça n'a pas de sens. Mais heureusement, le jeune homme, tiens pas la jeune femme, comme c'est bizarre, comprend l'énigme. Faut dire qu'il est fils de Prométhée, le dieu malin. Il comprend que ossement de la grande vieille mère, c'est une métaphore. La vieille mère est la mère de tout être vivant, à savoir la terre, et les os sont donc les pierres. Il faut que les jeunes gens les jettent par-dessus leur épaule. Ils ne sont pas sûrs, mais ils vont vérifier si l'interprétation est juste. Et ça marche.
Ils s'éloignent, voilent leur tête, délacent leur tunique et envoient derrière leurs pas les cailloux qu'on a dit. Les pierres, qui le croirait, mais l'histoire en témoigne, commencent à perdre leur dureté, leur rigidité. Un peu de temps pour s'amollir, pour, amollie, prendre forme. Bientôt elles grandissent. Une plus douce nature leur vient, de sorte, mais ce n'est pas évident, qu'on peut voir une forme d'être humain, comme une ébauche dans du marbre, imprécise, semblable à une statue brute dont une part, avec un peu de sucre, est humide et faite de terre. La forme nouvelle sert de corps. Ce qui est solide et ne peut être fléchi se change en os. Ce qui était veine, sous le même nom demeure. En un bref instant, sous la volonté des dieux, les pierres envoyées par les mains d'un homme prennent figure d'homme. Du geste d'une femme, une femme est réparée.
Et voilà, nous existons, nous pouvons vivre. Les humains sont donc à l'origine des pierres, comme le pensaient les Grecs, quand ils jouaient sur les mots et rapprochaient Laos, peuple, et Laas, pierre. La vieille mère, la terre, n'en finit pas d'engendrer. Nous sommes bien des nés de la terre. Mais cela, ce sont les poètes qui le disent. Tout le monde n'est pas obligé de les croire. Les poètes ont mobilisé un mythe compliqué, difficile à croire, pour expliquer pourquoi la terre a été à un moment recouverte d'eau, puis pourquoi ces eaux ont reculé. Les poètes ont dû inventer une colère des dieux, quelques humains à la dérive, flottant dans un coffre improbable. Avait-on besoin de toute cette histoire divine et fantasque ? La science, la philosophie vont s'emparer de la question du déluge. Car ce phénomène a bien existé. Il y a bien eu une époque ancienne où les eaux recouvraient la terre, puis se sont retirées. La preuve, on trouve en pleine terre, figées dans la roche et bien au sec, des pierres qui ont la forme d'êtres marins, les fossiles. Or, une explication physique de ce phénomène comme événement naturel normal, sans qu'intervienne aucun dieu, est possible. C'est ce qu'a voulu démontrer un philosophe qui a vécu au tournant des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Ce philosophe n'aimait pas du tout les histoires de dieux en colère se faisant la guerre, telles que les poètes ne cessaient pas d'en inventer. Ces histoires grotesques prêtaient aux dieux des caractères humains. Ce philosophe qui observait la nature s'appelait Xénophane. Il explique l'immersion de la terre dans l'eau par une loi naturelle. La terre est plus lourde que l'eau. Il est donc normal qu'elle soit à terme absorbée par elle. Mais l'action du feu, avec la chaleur du soleil, tend de son côté à assécher le mélange d'eau et de terre. L'eau se retire.
Xénophane pense que la terre se mélange avec la mer et qu'avec le temps elle est dissoute par l'humidité, disant qu'il en a comme preuve qu'on trouve des coquillages sur la terre ferme dans les montagnes. Et il dit qu'à Syracuse, on trouve dans les carrières la forme d'un poisson et de phoque, à Paros, la forme de coraux dans la profondeur de la pierre, et à Malte, des plaques de marbre contenant toutes sortes de créatures marines. Il dit que tout cela a lieu quand toutes les choses étaient, il y a longtemps, couvertes de boue, et que la forme dans la boue s'est asséchée, et que tous les hommes sont détruits, quand la terre déposée dans la mer devient boue, et qu'ensuite la génération se produit à nouveau, et que ce changement se produit dans tous les mondes.
L'histoire de la terre est donc cyclique, elle se répète. La terre, plus lourde que l'eau, se mêle à la mer, l'humanité disparaît. Puis il y a un assèchement par l'action du soleil, la vie humaine pourra reprendre. Le monde, le cosmos, peut recommencer son cycle. On n'a pas besoin de Dieu, de Prométhée, de coffres en bois, de Pyrrha et de Callion, et de mauvais jeux de mots entre pierre et peuple pour expliquer ce processus. Le déluge est un phénomène naturel, nécessaire et régulier. Il n'y a donc pas eu un seul déluge, mais une série qui ne finira jamais. L'idée mythique d'un déluge comme moment unique d'une rupture entre les dieux et les humains est absurde. Mais le résultat est un peu sec, si on peut dire, un peu mécanique. On ne retrouve pas dans cette analyse physique toute la richesse de l'histoire humaine. On ne retrouve rien des différentes manières qu'a connues l'humanité pour s'organiser, les angoisses, les espoirs, les conflits entre humains. C'est très abstrait, rapide, sommaire. Ça manque de chair, de vécu. Et puis, ça prétend faire la leçon. Comme si le philosophe disait « Vous, qui aimez les mythes, qui aimez la poésie, vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien, vous croyez n'importe quoi. Je vais tout vous expliquer par des lois physiques très claires, mais dont vous n'avez pas idée. Écoutez-moi. »
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne seraient point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île au large de l'amour, posée sur l'autel de la mer, satin couché sur le velours. Une île chaude comme la tendresse, espérante comme un désert qu'un nuage de pluie caresse. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous cachent les longues plage. Viens mon amour, fuyons l'orage. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île, et qu'il nous reste à bâtir, mais qui donc pourrait retenir les rêves que l'on rêve à deux. voici qu'une île est en partance et qui sommeillait en nos yeux depuis les portes de l'enfance. Oh, viens, viens, mon amour, car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance et tu es celle que je veux. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer une île.
Pierre Judet de la Combe nous parle de l'Atlantide, cette civilisation imaginée par Platon.
L'Atlantide, ce vieux rêve de l'humanité, ce continent englouti, cette civilisation puissante, nul géographe ne saurait en déterminer avec certitude l'emplacement. Pourtant, ce monde disparu a existé. Que dire ? Il existe peut-être encore.
Il y a aujourd'hui encore dans le Sahara des contrées que nul Européen n'a pu atteindre. Cherchons.
Cet homme a raison.
Hein ?
Parfaitement. L'Atlantide a été engloutie par le Sahara, c'est la vérité.
Bon. Comment peux-tu le savoir ?
Je le sais parce que j'y suis allé, je le sais parce que j'ai vu.
Plus d'un siècle après Xénophane, un autre philosophe grec, un penseur immense, a pris le contre-pied de cette position. Il n'a pas condamné les mythes. Il n'a pas rejeté le recours à une mythologie. Au contraire, il s'est mis à écrire des mythes avec des dieux, des guerres, des héros, comme dans la poésie. Mais il n'a pas fait comme les poètes, qui ont repris, réécrit, réutilisé des mythes traditionnels que tout le monde, ou presque, connaissait déjà. Il a inventé ses propres mythes, des mythes personnels. Ce philosophe immense est Platon. Platon s'est dit que ça n'avait pas vraiment de sens de vouloir produire un discours absolument vrai, scientifique, sur la nature, sur les choses, sur le monde, de vouloir l'imposer à des gens qu'on considère comme ignorants. Il s'est dit que sur ce qui change avec le temps, sur ce qui passe, ce qui s'oublie, qui revient sous une forme inattendue, différente, aucune certitude absolue, bien ferme, définitive, comme le sont par exemple les mathématiques, n'est possible. L'histoire mouvante, changeante des hommes, des sociétés, ne pourra jamais être réduite à une formule mathématique ou même à une loi physique. Elle est trop fluide, toujours en mouvement, surprenant. On peut avoir des idées très claires, bien nettes et rationnelles sur ce que sont la vérité, le bien, la justice, une cité idéale. Mais ce n'est pas avec ces idées pures, abstraites, qu'on pourra expliquer ce qui a eu lieu dans l'histoire humaine. Ces idées sont immobiles, fixes, alors que ce qui est intéressant à comprendre dans l'histoire de l'humanité, c'est le temps. Le fait que nous, avec notre esprit limité humain, nous avons oublié les périodes lointaines de notre passé, alors que le monde actuel se comprend aussi par ce passé. Pour saisir quelque chose de ce passé lointain, oublié, mais tellement décisif, Platon invente, raconte un mythe nouveau, le mythe de l'Atlantide. Pour comprendre l'état présent de l'humanité, et notamment l'état présent de la ville où il vit et travaille, Athènes. Platon invente de toutes pièces le mythe d'une guerre très ancienne, dont personne n'a plus aucun souvenir, entre une Athènes antique et une civilisation qui a entièrement disparu sans laisser de traces, la civilisation de l'Atlantide, engloutie pour toujours dans les eaux de l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule, des détroits de Gibraltar. D'abord, il fallait expliquer pourquoi personne n'a jamais entendu parler de cette histoire si importante. Platon invente alors un roman. Il imagine que le grand homme politique athénien Solon, le grand fondateur des principes politiques et juridiques de la cité athénienne, a fait un voyage en Égypte. Dans la ville de Saïs, une ville du delta du Nil, Solon rencontre des prêtres de la déesse Neit, qui serait en fait sous un autre nom, la déesse Athéna. Solon raconte à ses prêtres les légendes grecques sur les premiers hommes, sur le déluge, sur Deucalion et Pyrrha. Mais un vieux prêtre de la déesse l'interrompt et se moque de lui. « Les Grecs, dit-il, n'ont pas la mémoire des événements très anciens. Ils n'ont même pas idée que de tels événements ont pu avoir lieu.
Solon, Solon, vous autres Grecs êtes toujours des enfants. Vieux, un Grec ne peut l'être. Jeune, vous l'êtes tous par l'âme, car vous n'avez en elle aucune vieille opinion transmise depuis l'Antiquité de bouche à oreille, ni aucun savoir blanchi par le temps.
La raison de cette éternelle jeunesse ignorante des Grecs est que le genre humain a été détruit de très nombreuses fois par des catastrophes dues à des déluges, des feux mortels, des séismes. Chaque fois, la civilisation est détruite. À chaque catastrophe, les histoires anciennes ont été oubliées. L'Égypte, contrairement à la Grèce, est une terre stable qui a échappé aux catastrophes, car chez elle, la fraîcheur des eaux du Nil et la chaleur des déserts s'équilibrent, heureusement. L'Égypte est restée intacte. Elle peut garder la mémoire des époques les plus anciennes. Le prêtre égyptien peut donc raconter à Solon l'Athénien l'histoire antique d'Athènes. Les Grecs, ces éternels enfants, n'ont gardé en mémoire qu'un seul déluge, celui de Deucalion et Pyrrha, alors qu'il y en a eu beaucoup avant. Le prêtre égyptien raconte ce qu'était Athènes à ses tout débuts, il y a 9000 ans. Il raconte son conflit avec l'autre grande civilisation du moment, celle de l'Atlantide. Le grand exploit de cette Athènes très ancienne et oubliée a été sa victoire sur l'Atlantide. On ne pouvait pas imaginer deux sociétés plus opposées, Athènes et l'Atlantide. L'Atlantide était une très grande île, grande comme l'Afrique et l'Asie réunies, au large du détroit de Gibraltar, dans l'océan Atlantique. Les rois de cette île avaient constitué un empire. C'était des conquérants, des expansionnistes qui menaçaient tous les pays à l'est de Gibraltar, tous les pays de la Méditerranée, dont la Grèce. L'Atlantide était sous l'autorité du dieu Poséidon, dieu des vagues de la mer, de leurs mouvements, dieu des chevaux, dieu des taureaux mugissants. Sur son île, il se construisit un grand palais qu'il isola comme une forteresse avec des anneaux de terre et de mer qui alternaient au nombre de 5. Il fit jaillir 2 sources, l'une froide, l'autre chaude. Il épousa une mortelle appelée Cleito, la glorieuse. Elle engendra une série de rois, 5 fois 2 jumeaux. Poséidon répartit les terres de l'Atlantide en 10 parties entre ses fils. Là, un lecteur athénien devait se dire, tiens, 10, c'est le nombre des tribus officielles qui constituaient le peuple athénien. On devait se dire, cette Atlantide ressemble à Athènes, mais elle est bizarre. L'Atlantide était un pays de cocagne, une espèce de paradis. Les plantes y poussaient en abondance, toutes les essences d'arbres y étaient présentes. Le sol regorgeait de métaux précieux. La population prospérait. Elle a construit des temples, une capitale splendide. Des canaux circulaires lui donnaient une forme parfaite. Tout était beau, dans une alternance réglée d'eau et de terre. Dans cette Atlantide imaginaire, on retrouve des mondes bien connus. Les immenses travaux d'irrigation de Babylone. Le bonheur raffiné du pays de Nausicaa dans l'Odyssée, la Crète, et Athènes aussi. Des ports au bassin circulaire donnaient accès à la mer. C'était un endroit extrêmement animé, ouvert sur la diversité du monde, qui était mis en scène dans une géométrie très stricte, construite sur le nombre 5.
Ce lieu était tout entier couvert d'édifices nombreux et pressés les uns contre les autres. Quant au canal et au plus grand port, il regorgeait de vaisseaux et de marchands venant de partout, qui, en raison de leur nombre, produisaient par leur conversation et par la diversité des bruits qu'ils faisaient un vacarme assourdissant de jour et de nuit.
On dirait que Platon décrit le bruit, la foule, les marins, les marchands du port du Pirée, le port d'Athènes. On peut commencer à se dire que l'Atlantide, c'est en fait un visage d'Athènes, mais un visage bien particulier. L'Atlantide est construite sur l'idée d'alternance. Elle alterne les canaux de mer et les digues de terre. Elle alterne dans ses dimensions l'impair, avec le chiffre 5 très présent, et le pair, quand le chiffre 6 est utilisé. L'impair, dans la tradition philosophique, c'est l'illimité et l'infini. Le pair, c'est le limité, le défini. L'impair est considéré comme négatif, le pair comme positif. L'Atlantide mêle les deux, mais avec une prédominance de l'impair, du chiffre 5. L'Atlantide juxtapose des éléments contraires, sans harmonie. Ils sont simplement là, juxtaposés, sans unité. En ce sens, l'Atlantide est bien le royaume de Poséidon, dieu de l'eau, de sa fluidité, dieu de l'instabilité, dieu du mouvement incessant des vagues. En termes philosophiques, l'Atlantide, c'est le royaume de l'altérité et de l'instable, de l'indistinct. Athènes, au contraire, sera le pays du même, de l'identité. C'est là que l'on rejoint l'idée d'un texte de science-fiction. Platon a inventé ce pays disparu, a inventé l'Athènes des débuts, à partir de ses catégories philosophiques fondamentales, à savoir le même et l'autre, catégories universelles qui lui permettent dans sa philosophie de penser toute chose dans son identité et dans sa différence. L'Athènes de ce mythe, l'Athènes antique, c'est l'inverse de l'Atlantide. Cette Athènes est une ville terrestre qui ignore la mer. Elle n'a pas la forme de l'Athènes actuelle, rocailleuse. Ce n'est que plus tard qu'un déluge a emporté toute la terre qui la recouvrait pour ne laisser de l'acropole que ce qu'on voit maintenant, une sorte de cube de roche. Autrefois, c'était un grand plateau fécond, riche, qui donnait de grandes récoltes. Tout était ordonné dans cette Athènes, qui ressemble en fait à la cité idéale de Platon, telle qu'il a construite dans son dialogue, la République. Les classes sociales, gardiens et producteurs, artisans et paysans, sont bien séparés. Athènes, nous dit Platon, était sous l'autorité d'Athéna et d'Héphaïstos, la déesse sage et guerrière, et le dieu artisan. Ses habitants étaient les autochtones, nés de la terre même d'Athènes, puisque, d'après les légendes, le premier roi était né de la semence d'Héphaïstos, qui a fécondé la terre. Là encore, le lecteur athénien avait l'oreille qui se dressait. L'Athènes réelle était sous l'autorité d'Athéna et d'Héphaïstos, certes, mais aussi de Poséidon. Et le mythe d'origine qu'on se racontait sur la naissance d'Athènes, pas celui de Platon, mais la légende habituelle, parlait d'un conflit entre Athéna et Poséidon pour la gouvernance d'Athènes. Athéna a gagné, mais Poséidon a gardé un rôle essentiel dans la ville, comme dieu marin. C'est lui qui a orienté la politique d'Athènes vers la mer. Tandis qu'Athéna, en faisant pousser un olivier, soulignait le caractère terrestre, terrien de la ville. Les deux divinités étaient censées collaborer. Platon les sépare brutalement. Il dédouble Athènes. Dans son mythe, il y a une Athènes terrienne, Athènes de l'harmonie, de l'ordre, l'Athènes idéale. Et en face, il y a une Athènes différente, une Athènes marine, sous l'autorité de Poséidon, à savoir l'Atlantide, un royaume de l'altérité, de l'instabilité. Pierre Vidal-Naquet, l'historien, nous a bien montré que Platon, avec son mythe, analyse la situation de l'Athènes où il vivait.
Pierre Vidal-Naquet, historien.
Platon est un ennemi juré de la démocratie athénienne. Toute sa vie, il a combattu cette démocratie. Alors, ce qui caractérisait la démocratie athénienne, c'est que c'est une démocratie impériale, si vous voulez, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, s'appuyant sur un pouvoir maritime. Or, Platon déteste la marine. Par conséquent, tout ce qui est maritime est mauvais. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette civilisation atlante, qui est une civilisation effectivement luxueuse, les innombrables auteurs de légendes sur l'Atlantide ne semblent pas s'être rendus compte que le jugement de Platon sur l'Atlantide est un jugement entièrement négatif.
Platon n'aimait pas du tout ce qu'était devenu Athènes, une cité tournée vers la mer, vers le commerce, le contrôle des îles et des villes de la Méditerranée par la puissance de sa flotte. Athènes avait tendance à oublier ses origines terriennes, son ancrage dans le sol. Cette transformation d'Athènes en puissance maritime était due à la démocratie qui visait l'expansion, la guerre. Platon n'était pas de ce bord politique. En bon adversaire des démocrates, qui ont transformé Athènes en puissance des mers, en cité tournée vers le grand large.
Platon dénonce la tendance d'Athènes à vouloir constituer par sa suprématie maritime un empire, à déferler sur le monde. Athènes s'est faite Atlantide. C'est cela qui a affaibli la ville, qui lui a fait perdre la longue guerre contre la ville bien terrienne qu'est Sparte. Pays aussi instable que la mer, l'Atlantide était vouée à disparaître. C'est sa volonté d'expansion, de déferlement qu'il a perdu. Les Atlantes, les habitants de l'Atlantide, ont lancé une grande offensive vers l'Est, vers les pays de la Méditerranée. Nous n'avons pas le récit de cet assaut mythique. Platon nous dit seulement qu'Athènes, la ville qui à l'époque était bien ancrée sur sa terre, a su résister, a vaincu l'invasion, qui fait penser aux attaques des Perses contre la Grèce. Mais tout cela, toute cette histoire héroïque, appartient à une époque ancienne révolue et totalement oubliée. Peu après la victoire athénienne est venue la catastrophe finale, qui a fait disparaître définitivement l'Atlantide dans les eaux de l'océan et a fait aussi disparaître le peuple athénien. Il ne reste rien de l'Atlantide engloutie, mais Athènes, la ville solide, bien calée sur ses rochers, a pu malgré tout renaître, même si elle a oublié ce passé que seul un Égyptien des bords du Nil peut lui rappeler.
Mais dans le temps qui suivit, se produisirent de violents tremblements de terre et des déluges. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit funeste, toute votre armée fut engloutie d'un seul coup, sous terre, et l'île Atlantide s'enfonça pareillement sous la mer. De là vient que de nos jours, là-bas, la mer reste impraticable et inexplorable, encombrée qu'elle est par la boue que, juste sous la surface de l'eau, l'île a déposé en s'abîmant.
La leçon du mythe est politique et présente. Il serait vain de chercher dans la réalité une Atlantide disparue. Platon lui-même savait qu'il a inventé un mythe. Après ce mythe de l'Atlantide, nous allons revenir à Ulysse et à l'Odyssée. Ulysse, métamorphosé en vieux mendiant, va retrouver son palais. Que va-t-il découvrir ?
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.